Bonjour à tous, vous écoutez actuellement une interview du blog Les Enfants à venir.
Aujourd'hui, je suis avec Thierry Pardot qui a accepté que nous échangions suite à l'allocution d'Emmanuel Macron au sujet de la loi sur le séparatisme. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je me permets de te présenter brièvement. Donc Thierry Pardot, tu es chercheur indépendant associé au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'Université du Québec à Montréal. Tu es spécialiste des éducations alternatives, conférencier et auteur, entre autres des livres « Une éducation sans école » et « Au nom du pire, l'école, nouvelle religion d'État ». Alors, lorsque j'ai entendu l'allocution de Macron, début octobre, avec tous ces amalgames instruction, famille, religion, séparatisme, j'ai immédiatement pensé à toi et notamment à ton livre « Au nom du pire, l'école, nouvelle religion d'État ». Ça a fait résonance dans ma tête. Le titre est plutôt sans appel. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation à en parler avec moi.
Avec plaisir. Alors, ben oui, effectivement, on est pris dans des affaires qui sont supposées être laïques, mais qui, en fait, sont de nature religieuse, à mon avis.
Oui, exactement. Et juste pour retracer un peu ton histoire, enfin l'histoire autour de ce livre, tes deux enfants vivaient en unschooling jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et ensuite, ils ont été scolarisés. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe?
Comment dire, ça se passe, bon, c'est des écoles alternatives au Québec, elles sont publiques, donc... C'est des écoles alternatives publiques, au primaire et au secondaire, ce qui est rare quand même au secondaire, ouais. il y en a au moins une à Montréal. Donc mon grand, il est dans une école alternative, mais après, effectivement, voilà, les enfants sont intelligents, ils s'adaptent. Maintenant, est-ce qu'il faut s'adapter à un monde malade? Ça, c'est la question importante. Mais ils survivent, on arrive à détricoter ce qui relève pas mal de la question du... de la question de la manipulation, du pouvoir. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'école qui relèvent. Alors, comment dire, c'est pas une intention manipulatrice qui est à l'œuvre tant que ça. C'est, en tout cas, pas dans l'école, en tout cas, au niveau des ministères sans doute, mais pas dans l'école, en tout cas. C'est que les professeurs, les gens de l'école font leur métier, sauf que leur métier consiste y compris à manipuler en fait. Mais eux, ils sont pas à ce niveau la plupart du temps, ils sont pas du tout à ce niveau de réflexion en fait. Tu vois, un peu comme un militaire qui, tous les matins se pose pas la question de savoir si la guerre qu'il est en train de mener est juste quoi. Lui, il fait au mieux son métier qui est de faire la guerre en fait, tu vois. Mais après sur les fondements de savoir si. Alors c'est un peu difficile d'avoir un dialogue parce que on n'est pas du tout au niveau. Eux, ils sont dans la gestion de ce qu'on leur demande de faire et moi je suis dans le questionnement du bien fondé en fait de ce qu'ils font.
Et du coup ton livre a été motivé par cette scolarisation forcée, on va dire.
Oui, il a été motivé par ça, parce que, je suis toujours... je suis en train d'écrire un autre livre à ce sujet-là aussi. Je suis toujours un petit peu pantois par rapport au... En fait, je me demande pourquoi il est si difficile de dialoguer, en fait. Pourquoi il est si difficile de communiquer. Parce qu'a priori, si on regarde ça de l'extérieur, on est tout le monde soucieux des enfants, on est tout le monde prétend que l'enfant est sa principale préoccupation, qu'on est soucieux de son bonheur. Donc a priori, on devrait, même si on n'est pas d'accord sur tout, on devrait au moins pouvoir entamer un type de dialogue. Or, c'est pas le cas, en fait. On peut difficilement dialoguer, en tout cas, on peut difficilement interpénétrer nos discours en fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire on peut dialoguer dans le sens où il y en a un qui dit ce qu'il a à dire et l'autre il dit ce qu'il a à dire. Ça c'est pas un problème, mais disons que c'est beaucoup plus deux monologues qui se superposent qu'une question de dialogue. Alors la question que je me pose depuis longtemps, c'est mais qu'est-ce qui fait que qu'on a une difficulté telle. Et quand j'avais fait ma thèse de doctorat, je m'étais rendu compte que c'était essentiellement une question de foi, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre la question par le bout qu'on voulait. À l'arrivée, il y a ceux qui y croient et il y a ceux qui y croient pas. C'est géant à la question de l'école. Et donc, c'est vraiment une question de foi. Et donc, les arguments des uns sont très très inopérants dans l'univers de l'autre, parce que si toi tu crois en Dieu et que tu me dis oui, j'y crois, la preuve c'est écrit dans la Bible. Si moi j'y crois pas. je m'en fous de la Bible, en fait, tu vois, parce que je veux dire, moi, je vais croire à Monsieur Chatouille, parce que c'est écrit dans le livre Monsieur Chatouille, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et donc, alors, d'où la difficulté qu'il y a à vraiment établir un dialogue. Donc, ce livre-là, il est là pour montrer à quel point c'est une question de croyance, beaucoup plus que d'autres choses, en fait.
Oui, tout à fait. Et justement, à ce sujet, il y a notre gouvernement, donc effectivement, tu as dû suivre, qui veut interdire l'instruction en famille, car c'est là que se cacheraient les familles intégristes, n'est-ce pas, qui enfermeraient les enfants dans les caves. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet amalgame raciste et honteux contenu dans les propos de Monsieur Macron, et on va plutôt revenir sur ton livre. Je l'ai beaucoup aimé. Car il permet, à partir d'observations toujours factuelles, de se rendre compte que les biens fondés de l'école sont vraiment construits sur des croyances, comme tu nous disais. Et justement, j'avais envie de te demander, toi qui travailles sur le sujet depuis des années, est-ce qu'il y a un profil type de famille qui éduque leurs enfants sans école ?
Alors, il n'y a pas de profil type, on va dire qu'il y a un large éventail quand même, parce que... ce qui pourrait les rassembler, c'est leur croyance, en tout cas, dans leur capacité à éduquer eux-mêmes leurs enfants. Ça, c'est un peu le point commun, si tu veux. Mais alors après, autant dans les motivations, là, c'est important de, tu vois, si on veut rentrer, je vais essayer de ne pas être trop technique, hein, mais disons que quand, à chaque question... Il y a différents types de pourquoi, en fait, dans les réponses. Donc, on a des réponses qui sont de... par exemple, quand tu demandes, je vais essayer d'être clair. Pardon. Quand tu demandes pourquoi une femme est enceinte, d'accord ?
Oui.
Il y a des raisons causales, tu peux dire, parce qu'un spermatozoïde a rencontré un ovule, tu sais. Bon, puis voilà. Donc, et la réponse est parfaitement juste. Hein. Et il y a des réponses qui sont liées à la finalité. Et de dire, ben, parce qu'elle voulait un enfant. Et la réponse est aussi parfaitement juste. Mais tu comprends qu'on n'est pas du tout dans le même registre, d'accord ?
Tout à fait.
Alors, dans les motivations qui font que les parents choisissent une éducation sans école, il y a des réponses de causalité, il y a des réponses de finalité. Alors, ça peut être des parents qui ont mal vécu l'école, ça peut être des parents qui en sont sortis avec une forme de traumatisme ou qui ont compris que l'école n'était pas vraiment là pour les enfants, etc., etc. Et tu vas avoir des réponses de finalité qui est de dire, ben moi je veux que mon enfant vive de telle et telle petite expérience. Je veux que mes enfants soient plus performants que ce qu'ils apprennent à l'école, etc., etc. Et donc là tu as des réponses de finalité. Alors là déjà tu as quand même un gros éventail. Après tu vas avoir parfois, des motivations religieuses, c'est beaucoup le cas aux États-Unis, par exemple, plus chez les, tu sais, pentecôtistes et autres là que chez les musulmans, tant que ça. Il peut y avoir aussi des postures anarcho-libertaires aussi là-dedans, qui sont de dire. Là aussi, il y a encore un éventail. On se fait parasiter la pensée par les anglos avec le mot libertarien, parce que pour eux, libertaire et libertarien, c'est la même chose. Mais en fait, c'est la différence qu'il y a entre Brassens et Trump, si tu veux. Tu vois. Donc, quand tu fais une petite analyse, c'est pas du tout la même chose. Mais disons que tu peux avoir une pensée libertaire, anarcho-libertaire, qui est de dire... on a un monde sans frontières, on a un monde ouvert sur les autres, sur le monde, sur les couleurs, sur les religions, sur les ethnies, sur les cultures, et on veut pas du tout aller s'enfermer dans une classe, ça c'est une posture libertaire, et tu vas avoir une posture libertarienne qui est de dire l'État n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans mon salon, dans ma chambre à coucher, c'est moi qui ai le pouvoir, et l'État n'a pas à venir foutre son nez là-dedans, tu vois. Donc ça c'est oui, plus oui. un côté libertarien, tu vois. Mais quelque part on se rejoint sur une idée de la liberté, même si on n'a pas du tout la même définition. Donc tu vois, là aussi t'as encore un éventail. Alors entre celui qui est, je veux dire, un peu anarcho-libertaire et qui se dirait je veux parcourir le monde en voilier avec mes enfants, et parce qu'on est dans un monde sans frontières, on est tous habitants de la planète Terre, et celui qui, bon, que pour des motivations religieuses et de croyances dans la société marchande, déciderait que son enfant doit performer et que l'école n'est pas assez performative. Alors, tu vois, oui. on a vraiment un éventail complètement ouvert, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Après, du coup, c'est vrai que quand tu écoutes ces propos, ils veulent donc interdire l'éducation, ouais. sans école, en tout cas, en justifiant par le fait que ça contribuerait à renforcer l'islamisme radical. Ouais, c'est ça. Et or, les familles qui sont en IEF sont les seules à être contrôlées à leur domicile, dans leur vie privée. On peut rappeler que c'est pas le cas des familles scolarisantes. Donc,
Non, mais tu sais, Marion, on pourrait faire une liste, mais hallucinante, si tu veux, d'incohérences et de bêtises qu'il y a dans cette idée-là d'interdire l'école à la maison. Tu sais, les gens ont dit, bon, c'est, tu as raison, hein, dans ce que tu dis, évidemment, on est beaucoup plus contrôlés que les autres. Il y a la visite du maire, ce qui se fait pas du tout par les enfants qui vont à l'école, etc. Mais il y a aussi, en fait, cette idée qu'on a dit, ah, Macron reviendrait sur une loi de 140 ans en France. C'est pas une loi de 140 ans qui est remise en cause. C'est 200 000 ans d'histoire de l'humanité, en fait. Parce que les parents s'occupent de leurs enfants, si tu veux, dans l'histoire des mammifères, globalement, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, c'est pas tant qu'une question de loi, c'est une question de loi naturelle, en fait. Mais en plus, si tu veux, on se retrouverait dans des trucs débiles, parce qu'il y a plein de parents, de profs qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, parce qu'eux, ils connaissent le truc de l'intérieur, tu vois, ils veulent pas. Donc, ce qui fait que le gars, il serait quand même apte à éduquer des enfants du lundi au vendredi, ceux des autres, à 30 dans une classe, mais pas avec ses propres enfants. En fait, tu vois, tu te retrouverais dans des situations où, en plus, tu vois, si les enfants vont à l'école et qu'ils s'imprègnent des valeurs républicaines chères à Macron, une fois que eux auront des enfants, ils pourront quand même pas faire l'école à la maison parce qu'a priori ça a pas marché leur affaire, tu vois. Donc tu vois, il y a une espèce de serpent qui se mord la queue. Enfin bon puis alors les parents, tu vois, pourraient éduquer leurs enfants le week-end et pendant les vacances, mais ils auraient pas le droit du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, il y aurait un délit d'exercice illégal d'instruction, tu vois. On en serait là, quoi. Ça deviendrait délictuel, tu vois, d'instruire tes enfants du lundi au vendredi, mais le samedi dimanche là ça va. Enfin bref, tu vois, on se retrouve dans une liste, tu vois, quasi infinie de débilités par rapport à ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Et j'étais inscrite moi pendant 10 ans avant de démissionner et d'avoir mes enfants.
Non mais c'est sûr, c'est sûr que quand tu sais comment ça marche, c'est la réflexion que je suis en train de mener en ce moment, qui est l'espèce de double langage, tu sais, quand il y a Orwell qui est à la mode en ce moment, à la fois, pas dans les librairies fermées, mais surtout dans les esprits, parce que tu sais, tout le monde pense un peu à 1984 et la façon dont les confinements et autres se font. Et tu vois, Orwell explique vraiment brillamment cette logique de la double pensée, en fait.
Ouais.
Et les instincts, pour pouvoir survivre, sont totalement obligés de fonctionner avec cette logique de double pensée. C'est pour ça que le dialogue, tu vois, c'est une raison un peu psychanalytique, mais c'est pour ça que le dialogue est très compliqué. Oui. Par exemple, tu vois, je prends juste un exemple, mais on pourra en citer plein d'autres. Tous les profs souffrent de la hiérarchie, en fait. D'accord?
Tout à fait.
Et parce qu'ils reçoivent des circulaires, ils reçoivent des mots, le directeur qui veut pas qu'ils fassent la sortie, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, tous les profs savent qu'ils sont dans un système hiérarchique, il n'y a aucun problème avec ça. Et que dans ce système hiérarchique, ils ont des supérieurs hiérarchiques. Donc, s'il y a des supérieurs, ça veut dire quelque part, on peut valider l'idée qu'il y a des inférieurs hiérarchiques. Mais évidemment, ce mot-là d'inférieur hiérarchique n'est jamais prononcé. Et si on est dans un système hiérarchique, on pourrait se demander par quel miracle les enfants pourraient y échapper, en fait.
Tout à
Donc,
fait.
eux aussi sont dans un système hiérarchique. Et tu vois, à quel niveau ils sont de cette hiérarchie? Ben, ils sont au niveau le plus bas, les enfants.
C'est
Euh,
ça,
donc,
en bas.
donc, si tu, donc, quelque part, le prof est le supérieur hiérarchique de l'enfant. Tu vois, je veux dire, dans cette échelle-là. T'sais. Alors, soit on se dit qu'il n'y en a pas de hiérarchie, mais si on se dit qu'il y en a une, eh ben, c'est l'enfant qui est le plus bas et au-dessus, il a le prof. C'est
C'est
lui
ça.
qui va à la fois le récompenser, le punir, l'exclure, etc., etc. Donc, c'est un supérieur hiérarchique. Bon. Mais chaque fois que tu vas parler à un prof, il va te dire, non, mais l'enfant, il est au cœur. Et là, hop, on vient de changer d'image. On n'est plus du tout dans une logique d'échelle. On est dans une logique de cible, au cœur du système, au centre des préoccupations, etc., etc. Et là, ça veut dire que le prof, qui lui sait qu'il est victime d'un système hiérarchique, ne va jamais valider que l'enfant, lui, est aussi, encore plus que le prof, victime d'un système hiérarchique. Et donc, il va passer des années à avoir un discours à la salle des profs, tu sais, quand tu manges avec les profs le midi, on va dire, ah,
Oui.
putain, j'en peux plus de la dernière circulaire, tu vois. Mais qui, à la réunion des parents, va dire, vous savez, les enfants sont au cœur de nos préoccupations. Et ça, c'est une schizophrénie qui font que les profs deviennent dépressifs, en fait, tu vois.
Ouais, exactement. Langue de bois généralisée, des
Ah
œillères,
ouais.
on a des œillères.
Ouais,
C'est
et toi,
ça.
je prends le système de la hiérarchie, mais on pourrait prendre la logique de la domination, on pourrait prendre, tu vois, on pourrait prendre tout un tas de logiques. Tu sais, quand tu parles à un prof qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, et que tu lui
Oui.
demandes, toi, ton métier, là, tu sais, finalement, ce que tu fais dans la vie, là, tu l'as appris à l'université sur les bancs de l'UFM ou de l'université. Tous les profs, il n'y en a pas un qui va te dire, ben oui, effectivement, c'est là que j'ai tout appris. Ça n'existe pas, tu vois. Tous les profs du monde vont te répondre, ben pas du tout. Je l'ai appris sur le terrain, avec les enfants, faisant, tu sais, d'accord?
Oui.
Bon. Alors, tu dis, mais alors, comment ça se fait que tu obliges des enfants à être là, assis, à écouter ton cours, alors que tu es en train de nous expliquer que toi, ça t'a rien appris, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, et tous les profs savent ça. Tu sais, il y a une. C'est drôle, tu sais, moi, bon, je suis pas très expert là-dedans, mais je sais que, tu sais, dans le feng shui, tu sais, dans la façon dont tu aménages ton appartement, j'ai appris ça il y a pas longtemps, parce qu'en plus, on vient de déménager, alors j'ai refait mes étagères. Et alors,
Ouais.
tu sais, quand tu as une étagère, c'est qui finit carré dans un angle de porte, tout ça, tu sais, tu vas pas prendre l'étagère, tu vas pas te cogner à l'étagère à chaque fois que tu rentres dans la pièce. Mais si tu veux, il y a toujours quelque chose, une espèce d'inconscient, tu sais, qui fait que tu as toujours cet angle qui te menace, tu sais, et ça t'épuise de faire attention à cet angle, de pas t'y cogner tout le temps, là, tu sais.
Oui.
Alors, c'est pour ça que dans le Feng Shui, on dit qu'il faut faire des étagères épaisses, avec des arrondis, etc., tu sais, pour pas que tu te sentes menacé, tu sais. Et du coup, ta maison, elle est pas pareille, elle respire pas la même chose, tu sais. Eh ben, tu vois, c'est ça, je pense que les profs, ils ont toujours dans l'arrière-conscience d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ne sont pas forcément du côté des enfants. Mais ils ont
Tout à
tout
fait.
un discours qui est dans la double pensée et qui tend à se persuader qu'ils sont du côté des enfants. Et ça, c'est épuisant, quoi.
Ça, c'est épuisant, ouais. Et quand tu commences à ouvrir un tout petit peu l'œillère et à regarder un peu la réalité des choses, tu prends tout de plein fouet, quoi. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait vraiment, quoi. Le fait
Ben
de prendre conscience, commencer à prendre conscience, tu dis, mais comment j'ai pu pendant des années, enfin, bon, bref.
oui.
Et je me permets de revenir sur un truc que tu as écrit aussi dans ton livre, où je trouvais que c'était quand même assez parlant, où tu disais les partisans d'une éducation sans école sont combattus comme les tenants d'une foi concurrente et
Ben oui.
qualifiés d'intégristes et de sectaires. Et plus loin, tu dis, ils, en parlant du bon croyant, celui qui a foi en l'école, taxera sans rougir des éducations libres d'intolérance, de sectarisme, d'intégrisme, ne voyant rien à redire au rouleau compresseur de sa propre normalité. C'est un peu ça, voilà, sous le rouleau compresseur, quoi. On a les œillères.
Mais tu vois, par rapport à l'islam, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est combattu comme une foi concurrente.
Exactement.
C'est fou, hein.
L'islam et puis l'instruction en famille, en fait.
Aussi, oui, mais si tu veux, à travers le prétexte de l'islam, tu sais, tu vois le truc.
Oui.
Et
oui.
Ce qui est complètement fou, c'est que dès le départ, en fait, dès la loi 1905, la France s'est mis le doigt dans un engrenage, en fait, qui paraît un peu logique à tous les Français, mais qui est extraterrestre partout ailleurs dans le monde, tu vois. C'est-à-dire que cette laïcité à la française.
Oui.
Il n'y a personne qui la comprend vraiment, en fait. À part les Français, pour qui ça paraît absolument évident. Donc, en fait, l'État, sous prétexte de ne pas se mêler de religion, a dit, on va mettre la religion sous coupelle sous la gérance de l'État. C'est ça qui est complètement ouais. dans la truc de 1905. En fait, on va gérer les religions sous prétexte de pas s'en mêler. En fait, tu vois, donc on se retrouve pris dans un truc un peu bizarre, quoi.
Un peu bizarre.
Et donc c'est pour ça que bon, il y a le Conseil du culte musulman, etc., etc., qui est l'instance de dialogue avec l'État, parce que l'État veut mettre son nez là-dedans sous prétexte de pas y toucher, quoi. Tu vois, en gros. Donc oui. Donc c'est bref, tu te retrouves pris dans une espèce de, tu vois, de truc un peu compliqué
compliqué et dangereux.
Ouais, compliqué et dangereux parce que à la seconde où un abruti, tu vois, je reprends l'attaque du gars qui est arrivé au hachoir devant les anciens locaux, tu vois, de Charlie Hebdo, tu vois. Parce que le mec avait même pas vu qu'ils avaient déménagé, parce que c'est à peine s'il parle français ou pas quoi. Finalement, il attaque deux pauvres types en train de fumer une cigarette devant le. J'en rigole, mais bah, écoute, je suis désespéré, tu vois. Mais voilà. Et là, on se dit quoi? Il y a une espèce de gars par rapport qui a attaqué au hachoir, deux gars par rapport parce qu'il s'est planté d'adresse. Bon, ben, je pense qu'il faut interdire l'instruction en famille. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Tu vois, Camoulox. Tu vois.
c'est ça.
C'est Camoulox.
Et ces gens qui tuent au nom soi-disant de enfin bref, voilà, on dit que c'est des attaques terroristes, quoi. Et du coup, on se retrouve dans un truc assez immonde d'un débile qui fait quelque chose, on va dire que c'est une attaque terroriste, et on se retrouve dans un espèce de climat de peur, et grâce à ce climat de peur, notre république en profite pour faire passer des lois liberticides. Donc, tu as la peur du virus, tu as la peur du terrorisme.
Et je ne sais pas si tu as vu. Oui. C'est un truc que j'ai découvert ce matin, apparemment sorti le 21 octobre. Le Sénat a fait une proposition de loi qui rendrait délictuel, en fait, qui ferait un délit de la volonté d'un parent, en fait, de chercher à influencer. Un prof sur le contenu de l'enseignement qui chercherait en fait à atteindre en gros là à la liberté d'enseignement du prof, parce qu'en fait le droit à l'éducation devient en fait la
propriété de l'État.
Ouais, c'est ça. Puis devient la, c'est plus la liberté de l'enfant, c'est la liberté du prof maintenant. Mais bref. Et donc, si un parent allait voir un prof en lui disant, ben moi, est-ce que, tu sais, on peut critiquer ce que tu es en train d'enseigner à mes enfants, eh ben ça peut être passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Ah, super. Et ouais, tu vois, et en écoutant ça, là, ce que tu dis, je me rends compte que. Moi aussi, finalement, je tombe dans la peur. J'ai peur que l'État nous prive de nos droits, de notre liberté, déjà bien entamée. J'ai peur de devoir me soumettre de plus en plus. Finalement, un peu comme je le faisais en étant jeune face aux adultes. Et là, je me demande comment est-ce qu'on pourrait réagir pour que nos façons d'agir ne soient pas dictées par la peur. Comment on peut ne pas se faire envahir par ce sentiment et faire les choses pour. Et pas en réaction à, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà.
Mais ouais, ben c'est compliqué parce que moi j'ai comme l'impression que le discours qui consiste à avoir un regard critique, hein, sur ce qui se passe dans les écoles et tout ça va devenir de plus en plus inaudible en fait
Oui.
et peut-être même illégal en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et
Oui.
tu vois, pour revenir en 1984. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais peu de gens l'ont lu. Mais tu vois, à la fin de 1984, il se fait le héros là finalement se fait tirer dans le dos par la police en fait. Et là, il meurt et sa dernière pensée est qu'il aimait Big Brother. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça y est, voilà, il y a une incapacité à penser, et c'est ça tout le truc de... Il n'y a pas, tu vois, dans le monde de Big Brother, il n'y a pas de monde en dehors, tu vois, c'est ça.
Oui.
Il n'y a pas de monde dehors. Et là, l'école, c'est ce que je dis aussi dans ce livre-là, c'est-à-dire que un enfant devient un élève à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Donc il n'y a plus d'éducation, de monde, de pensée, de critique, de... En dehors de programmes officiels, quoi. Et ça, effectivement, y a de quoi prendre peur. Alors, comment on peut faire pour arriver à penser ce monde autrement que par les canons, en fait, qui nous sont imposés?
Oui.
Eh bien, écoute, c'est un combat quotidien, en fait. C'est vraiment une lutte. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, sur des trucs très techniques, hein, je ne sais pas moi. Tu vois, les mathématiques. Bon, prenons les
Oui.
mathématiques. Tu vois, pour prendre quelque chose de très technique et qui, a priori, n'est pas politisable, tu vois, ou politisé, tu vois. Bon, on prend les mathématiques. On peut, effectivement, apprendre des formules par cœur, théorème de Thalès, a carré plus b carré, tout ça. Mais enfin, on peut aussi, par exemple, dire que pendant 1000 ans, à peu près, c'est dans le monde arabe, en fait, dans le monde islamique, en fait, dans la culture islamique, que les mathématiques se sont à la fois propagées, développées, etc., etc. Tu vois, il n'y a personne en France, ou à peu près pas, là, c'est peut-être, en tout cas, il y a 99% de la population, ça j'en suis certain, qui est infoutu de citer un mathématicien arabe, tu vois. C'est quand même extraordinaire, cette affaire-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on a les chiffres arabes qu'on a utilisés, enfin, qui viennent des Indiens, mais qui ont été repris par les Arabes, qui ont eu pendant quasiment 1000 ans le monopole des sciences mathématiques. On n'est pas capable de citer un mathématicien arabe. De la même façon qu'on n'est pas capable de citer un astronome chinois, alors que l'astronomie chinoise a 4000 ans, tu vois, je veux dire.
Mais oui, tout à fait.
Voilà, alors qu'il y a des... Là, si je reviens aux mathématiciens, on parle de centaines de noms connus, là. Tu sais, on ne parle pas d'un gars qui a découvert un truc à un moment donné, là. On parle d'une centaine, au moins une centaine, voire plus, de noms célébrissimes, là, tu vois, je veux dire.
Oui, tout à fait.
Donc là, tu vois, il y a quand même... Tu peux interroger ton enfant qui est à l'école, tu vois. Moi, je suis un fan de la culture, hein, autant la culture asiatique, arabe, d'Amérique du Sud. Tu sais, moi, tout m'intéresse. Donc, je ne fais pas une fixation sur les sciences arabes, mais c'est vrai qu'il y a quand même là un lieu extraordinaire pendant des siècles, tu vois, où il s'est passé quand même un paquet de choses pour la pensée du monde, quoi. Comment
Oui,
ça
c'est
se
clair.
fait qu'on ne connaisse pas un seul nom, là, tu sais? Alors, ça, ben, bon, ben, ça, tu ne pourras plus le critiquer. Voilà. Tu ne pourras pas aller voir un prof en lui disant... C'est normal, ça, que mes enfants ils connaissent pas un seul nom. Tu vois? Bon. Et puis, quand je dis que les sciences arabes, ils étaient pour les mathématiques, mais c'était aussi pour l'astronomie, pour la poésie, pour la cartographie. Tu vois? Tu sais, on connaît tous Marco Polo, mais on ne connaît pas Ibn Battuta, alors que pourtant, les voyages d'Ibn Battuta feraient passer Marco Polo pour un touriste, quoi, tu vois? Non, mais pour vrai, tu vois, tape Ibn Battuta sur Internet, n'importe qui entend notre enregistrement, faites l'expérience, vous allez voir, c'est un truc de... Et les premiers cartographes et tout ça, enfin bon, bref, Enfin, voilà, quoi. Et bon, ben, ça, ben, on ne pourra plus le critiquer. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est 1 500 € d'amende si ça passe, parce que c'est une proposition de loi du Sénat. C'est pas sûr que ça passe. Mais enfin, si ça passe, c'est dans l'esprit de ce que disait Macron l'autre jour. Alors, non seulement on aurait une obligation de mettre nos enfants à l'école, mais c'est en plus, on n'aurait plus aucun droit de regard sur ce qui se passe. Je pose là le matin à 8h et puis. Allez à Jacta Est, quoi, voilà, c'est-à-dire, voilà, Inch'Allah, comme on dit, tu le poses le matin, tu vas le chercher le soir, mais alors au milieu, t'as aucune idée de ce qui s'y passe, sauf pour pouvoir faire les devoirs le soir, quoi. Enfin bon, ouais, ça peut pas marcher, quoi.
Ça peut pas marcher, puis tu pourras même plus dire Inch'Allah, d'ailleurs.
Ouais, c'est pour ça que je dis allez à Jacta Est, je me dis, bon, ça fait un équilibre.
Ça passe mieux, ouais, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, c'est hallucinant puisque l'école, du coup, tu le présentes comme un mythe. C'est quand même un espace clos, retenant contre leur gré des personnes ni coupables ni aliénées et avec obligation de travail. Enfin, tu vois, c'est quand même le seul endroit. Voilà, tu nous le rappelles très bien. Et de plus, ce lieu qu'est l'école ne respecte pas ni les besoins chronobiologiques ni les besoins physiologiques des enfants, comme le sommeil, la faim, le repos, peu importe, tu vois. Mais même le besoin de contact avec la nature est complètement bafoué, ainsi que le besoin de mouvement et les apprentissages par les jeux, alors que tous les enfants apprennent en jouant. Mmh. Et de se dire que tout ça, on est obligé de l'accepter, enfin peut-être on serait obligé de l'accepter, c'est absolument irrationnel. Et du coup je me demande, est-ce que tu aurais une idée de quelles seraient les solutions face à une telle décision si ça arrivait, quoi? Est-ce qu'on aurait possibilité de, enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'arrive à me demander quand même.
Ben, écoute, je ne sais pas si ça passe, ce serait quoi la solution. Moi, tu sais, j'essaye d'œuvrer à ma façon, un peu pour le milieu, en tout cas dans les sphères symboliques, intellectuelles, tu vois, dans les sphères de la pensée. Je ne suis pas vraiment un militant au sens où... je ne suis pas très équipé, moi, pour me frotter physiquement aux problématiques sociales, en fait, tu vois, je suis pas adhérent de tel ou tel parti, syndicat, association ou autre. J'essaye de donner aux gens, tu vois, les outils qui me semblent pertinents et que je trouve pertinents que j'ai moi, parce que non, je fais pas le tour de la question à moi tout seul, mais en tout cas, j'essaye. Je sais qu'il y a plein de gens qui manquent d'outillage, en fait, tu sais, ils se retrouvent pris dans les discussions, tu sais, à Noël avec le grand-père, la grand-mère, ça c'était dans le monde d'avant, tu sais, à l'époque on pouvait faire des réunions familiales, mais en tout cas ils se retrouvent pris, tu vois, à devoir un peu justifier leur choix, ils se sentent un peu attaqués, ils s'énervent, ça passe mal, enfin bon, voilà. Alors moi j'essaye de documenter, tu vois, intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, tu vois, cette question de l'éducation sans école, tu sais, c'est pour ça d'ailleurs, tu sais, la, je pense que les gens le ressentent, et on m'écrit encore, je te dirais, plusieurs fois par jour, en fait, pour me demander ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. T'sais, c'est un peu pour ça que j'ai mis en place cette formation d'éducation pirate, parce que en fait, le temps que ça me prenait, moi, je suis un peu poli, hein, ce qui fait que quand on m'écrit, je réponds. Et ça me prenait un temps fou, en fait, de répondre à chacun, en plus, un peu en me répétant, tu vois, il y a des gens qui découvrait ce que je faisais, là, elle me dit, ah bon, est-ce que tu peux nous dire, alors sur des trucs sur lesquels j'ai déjà donné plusieurs entrevues, écrit plusieurs livres, tu vois, etc., tu vois. Oui. Donc, ça me prenait un temps fou, c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation d'éducation pirate, parce que je voulais pouvoir répondre déjà comme il faut, tu vois, avec plusieurs heures de vidéos, etc., des cartes mentales, tout un tas de trucs, pour pouvoir répondre à ces questions-là et permettre aux gens de s'outiller, parce que je sais que les gens ont pas forcément mon livre Une éducation sans école, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire... Oui. L'idée, c'est que je sais que les gens, ils vont pas prendre le temps d'aller suivre telle recherche, d'aller faire telle... Bon, alors bon, moi, je le fais, mais après, voilà, j'essaye, dans des mots simples, de donner aux gens des arguments qui leur permettent de se sentir à l'aise avec leur choix, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je lutte, mais c'est loin d'être suffisant, hein. C'est-à-dire que des gens s'organisent, écrivent aux députés, je veux dire, fassent, tu vois, des formes de, à la fois d'information, mais aussi un peu de pression sur les politiques pour arriver à leur faire entendre un peu raison sur ces questions-là. Tant mieux, c'est qu'il y ait des pétitions, qu'il y ait tout ça. Écoute, c'est parfait. Moi, c'est moins ma forme de lutte, en fait. D'autant plus que oui. Je suis pas en France, je suis à 6000 km de là, je suis à Montréal, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je suis pas assez. Brassens avait expliqué ça très bien. Il y a eu une discussion entre Brassens et Ferrat, Jean Ferrat et Georges Brassens, où Ferrat était dans la lutte, la procession, tu sais, dans la manifestation, etc. Et qu'il fallait faire des chansons engagées, tout ça. Puis Brassens disait, bon, si j'avais le sentiment qu'une de mes chansons pouvait changer le monde, je le ferais, tu vois, ou parce que ce serait pas si compliqué. Mais voilà, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner quelques éléments de réflexion. C'est un peu des coups de poing d'interrogation, tu vois, comme ce livre. Voilà. Disons que moi, dans ma capacité à interférer avec le monde, ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait d'autres personnes qui en fassent plus ou différemment.
Ouais. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que c'est difficile. Et même moi, qui ai quand même certains outils maintenant, quand je me retrouve face à des gens qui ont cette foi en l'école, c'est vraiment très difficile de justifier nos choix personnels, comme s'ils étaient vraiment extraordinaires ou dangereux ou complètement sortis de nulle part, quoi. Et il y a une phrase qui m'a drôlement touchée dans ton livre par rapport à ça et que j'aimerais réussir à ressortir textuellement, tu vois, quand j'en aurais besoin, c'est « enfermer un enfant en prétendant le libérer ». Lui donner des consignes en prétendant le rendre autonome, l'évaluer et le punir en prétendant développer son esprit critique, exiger de lui obéissance en prétendant l'émanciper, tisse une réalité contradictoire flagrante. Mais bien peu ont la force de la remettre en question et d'en tirer les conséquences. » Je trouve que ça illustre exactement ce que tu viens de dire, quoi. Enfin, voilà.
Oui, bah, c'est ça.
J'aimerais
c'est
réussir à sortir des trucs comme ça.
C'est le temps, c'est... Quand on écrit, on prend le temps de construire ses phrases. C'est sûr que c'est plus difficile en live dans la discussion, mais c'est sûr que c'est ça qui rend la discussion difficile. C'est parce que cette double pensée avec laquelle fonctionnent les enseignants tout le temps, on peut pas leur mettre, tu vois, directement le nez, tu vois, dedans là, parce que justement le principe, c'est Edgar Morin qui disait un paradigme, c'est à la fois souterrain et souverain. C'est ça. C'est-à-dire que c'est enfoui, tu ne sais pas qu'il est là, mais c'est lui qui commande, quoi. Et voilà, donc là, tu sais, par exemple, dans la plupart des langues autochtones au Québec, il n'y a aucun mot pour dire forêt, en fait. Et il n'y en a aucun pour dire environnement, et la plupart du temps, il n'y en a aucun pour dire forêt. Tu vois, parce que quand tu es dedans,
c'est bizarre.
Eh ben non, c'est tout à fait normal. Chez les poissons, il n'y a pas de mot pour dire l'eau, tu vois.
Tu vois, c'est vrai que chez les poissons, il y a beaucoup de mots.
Il y a beaucoup de mots qui manquent, mais il n'y a pas de bulle pour dire l'eau, tu vois. Non, mais tu vois, c'est parce que quand tu es dedans, tu ne sais pas que tu es dedans, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est drôle, je parlais de ça avec mon fils ce matin en l'accompagnant à l'école. Mais tu peux pas, en fait, regarder. Tu sais, souvent un pays, tu vois, pour avoir immigré, je sais que la France, je la connais beaucoup mieux depuis que je la vois aussi de l'extérieur. Je la connais de l'intérieur et je la connais aussi de l'extérieur, tu vois. Et j'ai l'impression de la connaître mieux, de mieux la comprendre que beaucoup de gens qui la voient pas de l'extérieur, en fait, tu vois. Donc c'est ça. Donc là, les profs, eux, bon, se situent assez volontairement eux-mêmes du bon côté de la force, tu vois. Eux, ils sont forcément convaincus, tu vois, que ce qu'ils font, c'est pour le bien des enfants, etc., etc. Et ils voient pas le, tu sais, il y a une vidéo qui passe assez régulièrement, en tout cas moi je la vois sur Facebook très régulièrement. Je sais pas où c'est exactement, je pense aux États-Unis, mais en tout cas peu importe. tu vois, c'est l'entrée de la classe le matin. Et là, il y a une prof qui, avec chaque enfant, fait un petit rituel, tu sais, une danse, un high five, un câlin. Et elle accueille chaque enfant par une petite cérémonie de quelques secondes, tu vois. Mais chaque enfant a l'habitude de se faire accueillir selon cette cérémonie. Tu vois. Alors là, tu vois, tous les commentaires sont dit, tiens, rambique, accable, ok. Voilà. Alors, tu vois, les profs vont se dire, ah, c'est vraiment cool. Mais ce qu'ils verront pas, c'est que les enfants font la queue à 8h du matin et qu'il y en a peut-être qui auraient préféré aller à la pêche avec son grand-père ou à la, tu vois, ou je sais pas quoi. Il y en a qui auraient peut-être préféré rester au lit, etc., etc., tu vois. Et, ouais. Mais tout ce qu'on voit, c'est que comme on est pris dans l'évidence scolaire, c'est que bon, de toute façon, les enfants vont à l'école. Ça, c'est la base. On n'a même pas à réfléchir à ça. Et donc, maintenant qu'on sait qu'ils vont à l'école, regardez cette prof comme elle est dynamique, inventive, etc., pour accueillir les enfants. Mais la question du choix, si l'enfant aime bien faire ce rituel-là, est-ce qu'il avait envie d'être là à 8h du matin, se pose pas, en fait.
Non.
Et alors, c'est pour ça que c'est très, très compliqué. Alors, tu dirais à n'importe qui, ben, cette prof-là, elle applique une forme d'oppression sur l'enfant en l'obligeant à être là le matin à 8 heures et que si l'enfant n'est pas là, il faut qu'il ait un mot de retard, etc., etc. Tu vois, les gens ne comprendraient pas pourquoi on critique ça, tu vois.
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Et c'est, ouais, pour ça que je dis que je me dépêche de dire tout ça avant que ce soit complètement inaudible.
Tout à fait. Et c'est très fatigant. Et la différence, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera un jour, je ne sais pas si elle sera un jour acceptée. Pourtant, c'est un chapitre abordé à l'école, la différence et la tolérance.
Ah ouais, mais alors ça, c'est encore un autre problème scolaire, si tu veux. C'est comme la liberté d'expression, tu vois. C'est encore la même chose.
Oui, c'est ça.
Le vieux gag, tu vois, c'est que, tu vois, un prof, un professeur, ça professe, un enseignant, ça enseigne. Enfin, ça, c'est d'accord, c'est ontologiquement pensé comme ça. Ce qui fait que quand on a un problème avec la liberté d'expression, tu sais, c'est Maslow qui disait, si le seul instrument dont tu disposes est un marteau, tu auras tendance à tout considérer comme un clou. Tu vois. Bon, le marteau du prof, c'est le cours. Ce qui fait que quand on a un problème avec la liberté d'expression, est-ce qu'on va dire aux enfants, on va mettre en œuvre dans l'école toute la liberté d'expression dont vous rêvez, c'est-à-dire vous allez pouvoir être Charlie dans l'école, on va pouvoir faire un journal, vous allez pouvoir vous moquer, tu sais, on pourra montrer des dessins d'un prof tout nu avec une carotte mal placée, tu vois, ou je sais pas quoi, parce qu'on veut la liberté d'expression absolue, on veut être Charlie, allez-y, voici les papiers, voici les crayons. Faites-vous plaisir. C'est pas ça du tout qui va se passer dans aucune école. Je peux déjà l'annoncer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des cours sur la liberté d'expression. Donc la vérité sort de la bouche de celui qui parle aux enfants, si tu veux. Bon.
Ouais, exactement.
Et voilà. Et eux décochent ce pourquoi l'école est ontologiquement faite, c'est-à-dire faire un cours.
Ouais.
Alors c'est terrible parce que du coup, quand on parle de la tolérance ou du consentement, c'est exiger à un enfant qui avait sommeil de se lever aux aurores pour aller écouter un cours sur le consentement, c'est quand même cocasse, tu vois. Parce que s'il vient pas, il est puni, tu vois. Donc tu vois c'est quand même, mais ça, voilà, t'en parles à un prof, il se rend pas compte de ça.
Non.
Il ne voit pas ça.
Non, c'est sûr.
Et ces choses-là qui, une fois que tu es sorti de l'école, te paraissent mais vraiment évidentes, sont totalement invisibilisées dans le monde scolaire, en fait.
Oui, exactement. Et je vais finir en citant des mots de Blanquer que tu as dit à la fin de ton livre. Et en parlant du retard des notes du bac de 2019, là, que certains profs avaient attendu pour rendre les notes du bac, ouais. Blanquer aurait dit, Blanquer a dit, il y a quelque chose de sacrilège dans ce qui a été accompli. Et du coup, tu précises que sacrilège, ça veut dire profanation du divin. Donc, je trouve que c'est assez cocasse, et surtout pour notre président qui souhaite renforcer la laïcité en interdisant l'instruction en famille. Je trouve ça génial.
Non, en fait, ils vivent ça, et puis, tu sais, là, depuis, j'en ai relevé d'autres, des citations comme ça. Ils vivent ça, ils vivent leur laïcité comme une religion, en fait. Et du coup, l'islam qui prend trop de place à leur goût, parce qu'en fait, la loi 1905 avait tout prévu sauf l'islam, ils vivent ça comme une religion concurrente. Écoute, on pourrait faire d'autres rapprochements. Tu sais, à l'époque des Cathares, toi, t'es dans ce coin-là, t'es dans les Pyrénées, hein, c'est ça ?
Non, je suis dans les Hautes-Alpes, là, je suis revenue dans les Hautes-Alpes.
Ah, t'es revenue, mais tu n'étais pas dans les Pyrénées ? Ouais.
Ben si, je devais aller garder les brebis, je t'aurais compris.
Mais en tout cas, tu sais, dans le sud de la France, notamment le sud-ouest, il y a eu toute cette croisade contre les Cathares, tu sais. Les Cathares, qui étaient une religion chrétienne, mais concurrente, en fait.
Oui.
Et à un moment donné, ils se sont retrouvés devant Béziers, je pense, où ils faisaient des... Tu sais, ils brûlaient tout le monde, hein, ils faisaient des charniers géants, ils brûlaient des gens par centaines, c'est bon. Et à un moment donné, l'évêque dit, c'est Guy de, je sais plus comment, enfin, en tout cas, je sais plus comment il s'appelle le gars là, mais en tout cas, bref, il dit, bon, ben, vous rentrez dans Béziers, vous massacrez tout le monde, et puis, au moins, le problème sera réglé. Et donc là, il y en a une qui lui dit, ouais, mais il y a aussi des catholiques là-dedans, c'est. Et il a eu cette phrase qui est restée célèbre, ben, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et tu vois, c'est resté célèbre, mais ça a été dit contre les Cathares, tu vois. Bon, ben là, on est dans la scolariser les tous, la République reconnaîtra les siens, tu vois.
C'est ça.
Et non, c'est vraiment une pensée religieuse, en fait, tu vois, qui se met en place. Et donc, quand t'as une pensée religieuse, tu vois, bon, moi, j'ai plein d'amis croyants, plein de religions, là, je m'en fous, moi, je suis pas croyant, mais disons que t'es l'homme d'une seule vérité, tu comprends, je veux dire, parce que, même si tu acceptes les idées des autres, même si tu tolères les idées des autres, toi, t'as ta vérité, et, évidemment, tu peux pas la vérifier, hein, puisque, par définition, tout ce qui est vérifiable n'est plus de l'ordre de la croyance, évidemment. Il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le coin du voile, tu sais, où c'est quelqu'un qui trouve une lettre qui prouve l'existence de Dieu. Et le Vatican s'évertue à faire disparaître la lettre. Eh ben oui, parce que, tu sais, tu crois pas au facteur ou à ta chaise de bureau, tu vois, je veux dire. Parce que ça,
oui, bah oui, forcément.
Voilà, donc pour croire, il faut qu'il y ait un doute, tu vois, sinon c'est pas une croyance. Et donc s'il y avait la preuve de l'existence de Dieu, il y aurait plus de croyants. C'est ce qui est paradoxal, mais c'est ça. Et donc eux, c'est ça, avec l'idée qu'ils se font de la République, c'est une croyance. Et qui peut pas être, comment dire, amené au registre de la preuve, parce que si on essayait de prouver que l'école crée des bons citoyens républicains qui réussiront dans la vie, qui deviendront riches et heureux, tu vois, si on essayait de prouver ça, on voit qu'on n'y arriverait pas. D'où l'idée de la croyance.
Ben, tout à fait.
Et donc, ils tolèrent mal les croyances concurrentes, quoi.
Exactement. Et comme tu dis, notre devoir est de prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui est dit pour que justement la croyance s'arrête.
Ben en fait, on pourra pas arrêter la croyance, en fait. C'est ça le truc, hein. C'est parce que une croyance, tu peux pas lutter contre une croyance, hein, parce que t'as aucun argument.
Mince.
Mais par contre, tu peux lui faire prendre conscience que c'est une croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui croient, mettons, tu sais, au PIB, le développement du PIB, le développement de la croissance à l'infini. Bon, écoute, t'as le droit d'y croire, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais il faut quand même que tu sois conscient que c'est une croyance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que ça repose sur à peu près rien de rationnel, en fait. Tu vois? C'est-à-dire une croissance infinie dans un monde fini, tu vois, ça relève de la croyance, c'est pas autre chose, quoi, tu vois.
Tout à fait, mais contrairement à l'existence de Dieu, qui n'est pas vérifiable, du coup, l'école, il y a quelque chose de vérifiable, je veux dire, comme toi tu le fais dans le livre, tu énonces des faits seulement, et on se rend compte que...
Oui, oui, mais ce qui est vérifiable ne joue pas en faveur de la croyance, en fait. En fait, ce qui est vérifiable nous amènerait plus à ne pas croire, en fait. Mais oui. Ce pourquoi les gens croient, ça, c'est pas vérifiable. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que, si, en gros, si je te dis « enferme-toi dans une pièce pendant des années et tu vas voir, c'est ça qui va te libérer plus tard », c'est ce que fait tout... c'est ce que fait un moine, tu vois, par exemple, un moine cloîtré, tu vois, il va s'enfermer pour le salut du monde, de Dieu, le sien, ou je sais pas quoi. Mais c'est pour plus tard, tu vois, c'est jamais pour maintenant, quoi. Donc, ça, c'est vérifiable. Dire à un enfant de 5 ans, je t'inscris à l'école, tu vas ressortir de là à 20 ans en étant libre, heureux, cultivé, émancipé, tout ce que tu veux, t'en sais rien. Tu n'en sais absolument rien. Et ça, ça relève de la croyance. Et tout ce que tu peux vérifier irait plutôt contre cette croyance-là. Mais le propre d'une croyance, c'est de croire envers et contre tout. Hein.
Et oui. Mais du coup, là, c'est l'enfant qui ne peut pas vérifier, mais le parent, si on lui donne son exemple à lui.
Ben oui, mais en fait, c'est ça qui est bien avec la croyance. C'est que ce n'est pas du tout inféodé à un certain nombre de résultats. Tu vois ?
Okay.
Bien au contraire. Moins tu sais des supporters d'une équipe de foot, moins l'équipe a de chance, plus il encourage.
Oui.
Et en fait, la croyance, c'est ce qui te reste justement quand il n'y a plus d'autres choses à quoi te raccrocher, tu vois. Tu vois, la religion, si on la prend d'un point de vue un peu anthropologique, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Moi, je ne le sais pas, toi, tu ne le sais pas, personne ne le sait. Tu vois. Donc c'est angoissant, évidemment. C'est quand même très angoissant. Alors on se dit, bon ben, on va croire, puisqu'on ne sait pas. Et puis il y a un gars dans l'histoire de l'humanité qui a dit, ben moi je sais. Il dit, bon ben, moi j'en sais toujours pas plus, mais lui dit qu'il sait. Alors je vais faire comme il a dit lui, et peut-être que ça va marcher. Mais parce que c'est ça, finalement. Mais en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier là. C'est juste que... Bon, alors là, évidemment, si quelqu'un te met le nez, tu vois, dedans en disant « Mais là, en fait, ça, c'est n'importe quoi, ton truc, là. Ça repose sur rien. Mmh. » Eh oui, mais justement, c'est bien pour ça que c'est une croyance et que c'est pas du tout lié à une forme de... Alors oui, on a évoqué des miracles, des manifestations de Dieu et tout ça, mais enfin, globalement, là, si on fait un petit sondage, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, quoi. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien d'un film, c'est le film de Zorro avec Antonio Banderas, là. Et bon, il y a l'armée qui rentre pour chercher Zorro, justement, dans l'église. Et il y a le curé qui dit « Mais alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans la maison de Dieu. » Et le militaire répond « Vous inquiétez pas, nous serons partis avant qu'ils reviennent. » Tu sais. Et voilà. C'est ça, tu vois, c'est-à-dire, tu comprends, c'est que dès que tu ramènes ça à quelque chose de pragmatique, c'est fini, tu vois. Tout est symbolique. Mais il n'y a pas de problème, moi, que des gens, tu vois, et puis moi, je l'ai aussi, hein, je veux dire. En fait, en tant qu'être humain, on a besoin de se raccrocher à des espaces symboliques, à des... Eh bien, il n'y a aucun problème avec ça, hein, c'est très, très bien. Maintenant, il faut juste être conscient. C'est ce que je dis dans le livre, hein, un musulman ou un chrétien sait qu'il est musulman ou sait qu'il est chrétien. Mais un prof Exactement. Ne sait pas qu'il est croyant de l'école. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui pose oui. problème. Voilà, parce oui, qu'il peut ça. Y avoir des dialogues, et il y en a d'ailleurs des formidables, des dialogues entre chrétiens, musulmans, orthodoxes, protestants, bouddhistes, tout ce que tu veux. Il y a en fait, l'essentiel du monde cohabite plutôt bien et dialogue plutôt bien. Mais tout le monde est conscient de sa croyance. Là où ça devient compliqué, c'est quand tu as une croyance et que tu ne sais pas que tu en as une, en fait.
Oui, tout à fait. Et du coup, que la tolérance est de zéro pour les personnes qui ne veulent pas croire à ça.
Ben oui.
Vu que ça ne serait pas une croyance, mais une vérité.
Ben oui, c'est ça. Et c'est ça qui complique tout. Ouais.
Écoute, Thierry, je te dis merci beaucoup pour ce cri du cœur. Ouvre les yeux pour ceux qui se donneront la peine de lire tes lignes, finalement.
Ben oui, ben écoute, merci. C'est un petit livre qui marche bien, en tout cas. Bon, là, c'est sûr que c'est pas les librairies. Mais oui, c'est un livre, écoute, je peux pas vraiment me prévaloir d'avoir des pensées prémonitoires, mais sur celle-là, je pense que c'était pas mal.
Oui, ça a été pas mal, franchement. Bon. Merci Thierry.
Eh bien, avec grand plaisir, merci.